certain de ce qu'il affirmait. Ce n'était pas une plainte, ni une menace affective, simplement une sorte d'étrange constat dont l'objectif était d'anticiper son départ. Quelque chose en lui savait-il déjà qu'il allait s'éteindre 6 mois plus tard? La façon si solennelle et inhabituelle avec laquelle il me l'avait dit me conduit à le penser. Il se préparait, notamment durant ces nuits emplies de rêves. J'ai observé la même chose dans le cas d'un accident. Mon frère avait confié plusieurs semaines avant de fêter ses 30 ans qu'il avait toujours su que quelque chose de spécial lui arriverait une fois passé cet âge, qu'il commencerait sa vraie vie à ce moment-là. Il a été tué lors d'un accident, 20 jours après son anniversaire. Et Léo, qui disait avoir vu la mort 3 jours avant de se tuer, en base jump. Et Arthur, qui décida de voir tous ses amis durant les 15 jours précédant sa mort, au point que cela troubla sa femme et sa mère Héloïse, car c'est comme s'il avait pris le temps de voir tous ceux qui lui étaient chers avant ce jour de l'attentat. Coïncidence? C'est mon premier réflexe de le penser. Mais on ne peut pas toujours qualifier de coïncidence les faits troublants qui ne cessent de se produire autour de nous. Ils sont trop nombreux. Pourtant, j'ai encore de la peine à concevoir cette réalité. Sylvie, je me permets d'insister. Cela signifie que, dans le cas des attentats, l'âme des victimes aurait commencé à se préparer à la mort des mois avant que les terroristes n'aient même planifié leur action. Cette préparation ne se passe pas dans la conscience usuelle qui s'active durant la journée. Je sais que pour nous ici, ça semble difficile à concevoir, mais de l'autre côté, le regard sur les choses et également le temps sont différents. En quelque sorte, les causes des actions que l'on observe dans notre réalité se situeraient en dehors de notre temporalité. Ici, dans notre réalité matérielle, cause et effet se suivent. Un effet se produit suite à une cause antérieure. Mais dans l'au-delà, à un niveau de réalité plus subtil, et comme Jung l'avait suspecté en inventant le mot de « synchronicité », c'est le sens qui relie les événements et les êtres. Ce sens échappe à notre entendement, même si parfois la puissance de son évidence nous interpelle. Nous ne regardons pas au bon endroit pour trouver les véritables causes de la mort. La cause profonde d'un départ n'est jamais dépendante de la matière. Elle se situe au-delà, dans la réalité immatérielle de l'âme. La matière n'est qu'un effet. Les causes apparentes de la mort, maladie, accident, etc., ne seraient que des causes apparentes, les reflets d'une autre réalité. La préparation dont tu parles, Sylvie, commencerait donc environ 9 mois avant le décès? Oui. On retrouve cette information dans les textes de différentes traditions ésotériques. D'après moi, la naissance et la mort commencent à se préparer longtemps avant le passage proprement dit. En ce qui concerne la mort, quelles que soient les circonstances de notre départ, une partie de nous s'y prépare en effet pendant des mois. Que l'on soit croyant ou non, quel que soit notre degré d'éveil spirituel, et même si trop occupé par nos activités quotidiennes, on n'en a conscience à aucun moment. On peut être conscient de ce processus si l'on est très éveillé. Les grands maîtres spirituels connaissent le moment exact de leur mort, et ils meurent à la date et à l'heure pile qu'ils ont indiquée. À ce niveau de conscience, la mort n'est pas source de peur, de déni ou d'attachement. Ils reçoivent cette information et s'en servent pour préparer le passage en pleine conscience. C'est plutôt rassurant. Même si la confusion peut envahir la personne qui vient juste de mourir, une part d'elle s'y est préparée depuis des mois pour comprendre le passage dans une nouvelle dimension. Cela lui permet d'avoir les ressources intérieures pour ne pas être submergée de stupeur et de faire en sorte que la compréhensible période d'adaptation ne s'étale pas sur une durée déraisonnable. Oui, c'est plutôt rassurant. Pourtant... Chapitre 13. Confusion. Il fait noir. Je viens de me réveiller, mais je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où je me trouve, et, plus déconcertant encore, j'ignore qui je suis. Comment est-ce possible? Comment être à ce point plongé dans un tel brouillard? J'ai uniquement conscience d'être allongé sur un matelas, mais pour le reste, tout n'est qu'un énorme flou. Je n'ai même pas idée de comment je m'appelle. C'est bien la première fois qu'il m'arrive une telle chose. Je me redresse, je bascule les jambes dans le vide, mes pieds rencontrent de la moquette sur le sol, je m'assieds sur le bord du lit. Les ténèbres m'entourent. Ma confusion ne peut être plus grande. Il me semble percevoir le bruit léger d'une respiration dans mon dos. Y a-t-il quelqu'un dans ce lieu avec moi? Qui cela peut-il être? Et pourquoi m'est-il impossible de me souvenir d'un seul détail me concernant? La situation est à ce point insolite que ma stupeur est à cet instant plus forte que l'angoisse. Les secondes s'égrènent, mais rien ne se passe. Je me lève et me tiens maintenant debout, perdu au milieu d'un espace inconnu et mystérieux. Est-ce grand? Petit? Où suis-je donc? Mon cerveau tourne à fond. Je me concentre de toutes mes forces pour essayer de me souvenir de quelque chose, n'importe quoi, une information, un élément permettant de me rappeler mon nom, car je sais être quelqu'un. J'ai juste oublié qui. C'est effarant. Mon trouble est à son paroxysme. Je suis échoué au milieu du néant. Comment oublier son propre nom? Son identité, la totalité des fragments de son existence. Déconcerté, je lève les bras et tâtonne dans le vide obscur autour de moi. Bientôt, ma main gauche rencontre une surface solide et verticale. Qu'est-ce que c'est? Je caresse cette étendue et arrive à une encoignure, une arête à angle droit. La surface nouvelle, perpendiculaire à la première, est d'une texture différente, plus lisse, plus froide. Mon esprit produit des efforts incommensurables pour tenter de comprendre où je me trouve à partir de ces maigres renseignements tactiles. Mais rien ne vient. Les secondes sont si interminables que je commence à craindre de ne jamais sortir de cet état. J'ai conscience d'être une personne, mais c'est tout. Bien que totalement désorienté, je réalise que du temps s'écoule et qu'il est parfaitement anormal que je n'ai pas accès à la moindre information me concernant. La main gauche toujours posée sur la surface lisse, effleurant ce qui semble être un mur puis un angle, toute l'attention de mon mental se porte avec urgence vers cet unique objectif, comprendre ce que je touche. C'est un mur. Très bien. Un mur. Mais le mur de quoi? Dans le noir, une arête, un nouvel angle. Et là, mes doigts atteignent des objets plus doux, des surfaces inégales. Ils courent et se heurtent à des sortes de volumes légers et bombés. Quel est ce mur? Quel est cet endroit? Quels sont ces objets? Dans un effort de concentration surhumain, très lentement, par bribes, tandis que debout je vacille de détresse, les pièces du puzzle commencent à s'assembler enfin. Mon identité réémerge progressivement. De minuscules parties de ma mémoire reviennent à la vie, les unes après les autres. Les choses reprennent leur place. Cet angle, ces volumes en relief, c'est une bibliothèque et des livres, mes livres. Je suis chez moi. La bibliothèque se trouve à gauche de mon lit. Chez moi, cela signifie que la personne dont je perçois le souffle derrière est ma femme, Natacha. Si je viens de reprendre conscience chez moi, dans ma chambre, je suis Stéphane Alix. Mais Comment cette évidence a-t-elle pu m'échapper un si long moment, alors que je suis totalement conscient et éveillé? Comment ai-je pu sortir du sommeil et, durant d'interminables secondes, ne plus avoir la moindre idée de qui j'étais? Je ressens très rapidement que ce qui vient de se produire est lié à mon père, que j'ai accompagné jusqu'à son dernier souffle il y a seulement une poignée de jours. Je suis quasiment certain d'avoir rêvé de lui juste avant de me réveiller, si égaré. Je n'en garde pas de souvenir, mais seulement la sensation. Il ne s'agissait pas d'un rêve normal. Je quitte la chambre en prenant garde de ne pas faire de bruit, et à mesure que les minutes s'écoulent, la conviction que j'étais avec mon père se renforce. Nous étions ensemble dans un rêve, et mon réveil dans le noir, totalement désorienté, était lié à cette rencontre par-delà la mort. Est-ce lui qui a provoqué cette expérience si déstabilisante? Par quel moyen? Cela a-t-il seulement été volontaire de sa part? Non, j'en doute. J'ai plutôt été catapulté dans son monde, à moins que ce soit son âme qui soit restée bloquée en moi un interminable moment. Oui, c'est un accident. Il doit s'agir d'un acte incontrôlé de sa part, provoqué fortuitement par la force de l'amour qui nous lie. Il s'est glissé en moi et son âme n'est pas parvenue à s'extraire à temps du rêve que j'ai fait et dans lequel il a tenté de se manifester à moi. Je me suis réveillé avec mon père encore en moi. Je le sens avec force. C'est une sorte d'évidence, d'intuition manifeste. Deux âmes partageant un même esprit, plusieurs secondes. Est-ce que ça l'a affolé? Je suis convaincu d'une chose. Par cette expérience accidentelle, il m'a été donné de partager cette confusion que parfois il doit nécessairement éprouver depuis qu'il est mort. Moins de 2 semaines après son décès, malgré le fait que je sois intimement convaincu qu'il continue son existence, je réalise avec stupeur combien j'ignore réellement où il est et ce qu'il traverse. Cette expérience si déstabilisante m'interpelle et fait même naître en moi quelque inquiétude. Depuis le début de son voyage dans l'au-delà, mon père est-il perdu par moments? Est-il seul, confus, désorienté? A-t-il d'ailleurs seulement réalisé qu'il venait de mourir? Qu'il était un nouveau-né dans l'au-delà? S'il connaît des périodes de confusion, comment va-t-il en sortir? Que puis-je faire pour l'aider à comprendre, à réaliser où il vient d'arriver? J'ai dû fournir un effort si intense, il y a quelques minutes à peine, pour reprendre pleinement conscience de qui je suis et d'où je me trouvais. Alors, lui, comment fait-il? Peut-il se réveiller? Est-ce qu'il m'entend lorsque je lui parle à haute voix comme maintenant, tandis que j'ai recouvré tous mes esprits et suis descendu me préparer un café? Pieds nus sur le carrelage froid de la cuisine, encore sonné par l'expérience, j'attrape une tasse, puis je reste immobile, pensif. L'ampoule du plafond grésille, la lumière baisse d'intensité par à-coup, puis revient à la normale. Une première gorgée de café, liquide chaud, sans sucre. Réveillé depuis maintenant une 15 minutes, je suis tout à fait plongé dans la réalité, et la tristesse me recouvre à nouveau. Une peine familière, mélange d'absence indicible et de résignation. Comme c'est étrange de perdre son père. Un homme si proche, un homme que j'ai toujours connu et qui désormais n'est plus là. Impossible de lui tendre la main, d'embrasser sa joue parcheminée, de voir son regard malicieux, de sentir sa chaleur, d'entendre sa voix joyeuse, de lui téléphoner, de le prendre dans les bras, de lui parler de ma vie, de partager d'heureux moments d'existence ensemble. Tout cela, c'est terminé. Il y a une semaine, mû par une étrange inspiration, j'ai caché des objets dans son cercueil. Personne ne le sait, pas même ma mère, ni ma femme. Pas un être vivant en dehors de moi n'est au courant de l'expérience, de ce test que quelque chose m'a poussé à faire. Ma tasse chaude au creux des mains, assis dans la cuisine alors qu'une nouvelle journée d'été commence, je lui rappelle à haute voix notre marché et ce que j'attends de lui. Qu'il vienne dire à un médium quels objets j'ai placés dans son cercueil. Il va le faire et ainsi prouver avec force qu'il continue son existence. Mais une année va s'écouler avant que cette surréaliste communication s'établisse entre nous. En cette fin juin, je réalise à peine qu'il vient de mourir, et c'est vraiment un sentiment étrange, pas naturel. Je voudrais savoir ce qu'il vit. 11 jours après sa mort, mon père a-t-il compris ce qui lui est arrivé? Cette terrible confusion que je viens de traverser, était-ce la sienne? Est-ce la réponse que j'attends? Le cas échéant, est-ce cela la mort? Des moments de désorientation complète, la perte totale de son identité, la confusion. A-t-il des périodes de lucidité? Son esprit est-il ballotté entre des moments très confus et d'autres où sa réalité lui apparaît avec clarté? Est-il simple de comprendre que l'on vient de mourir? Chapitre 14. De la nécessité d'une carte. 16 juin, jour de la mort de mon père. J'imagine la surprise qu'il a dû ressentir en reprenant conscience au-dessus de nous alors qu'il venait de cesser de respirer. C'est un homme qui a toujours été assez tourmenté par la perspective de sa mort. En parler, y réfléchir, le plongeait dans l'inquiétude et ravivait la souffrance provoquée par la disparition de son fils Thomas des années auparavant. Alors là, s'apercevoir que ça continue. Il voit sa femme et ses deux fils au chevet de quelqu'un. Il est conscient, mais n'arrive pas à croire ce qui se passe. Il flotte. Son unique préoccupation, tandis qu'il reprend ses esprits en réalisant que tout va bien, alors qu'il était inconscient depuis la veille, et de nous en informer. Il essaie de parler, mais aucun de nous ne réagit. « Mais vous n'entendez pas ce que je dis ?» Il veut nous toucher, mais ses mains passent à travers nos corps. Voilà qui est encore plus étrange. Il se sent physiquement bien, pourtant. Il n'éprouve plus de douleur et se trouve plus léger. Sa tête lui tourne quand même un peu. La situation est tellement incongrue qu'il en éprouve une certaine confusion. Se faire entendre, obtenir une réaction de notre part l'omnubile. « Enfin, c'est incroyable! Vous êtes sourd ou quoi ?» C'est seulement à ce moment qu'il remarque le corps amaigri d'un homme allongé dans le lit devant lequel sa femme et ses fils se tiennent. Un corps immobile, un visage creusé et pâle qui lui semble familier. « Mais, ma parole, c'est moi !» La stupeur de se reconnaître, soudain, dans cette dépouille éteinte, provoque un sursaut de clarté à la fois effrayant et incroyable. Comment puis-je me voir de l'extérieur? Je ne peux pas être mort. C'est impossible, puisque je suis vivant. Il vient de comprendre, et dans le même temps, il est aussi perdu qu'un enfant abandonné dans un pays étranger, dont il ignore la langue, les coutumes, et jusqu'à la géographie. Tandis que le décor de la chambre d'hôpital s'étiole et que semblent apparaître de grandes figures lumineuses familières, commence alors pour mon père un formidable voyage dans un pays dont il ignore tout et pour lequel il n'a pas pensé à se munir de la moindre carte. Avouez que c'est un comble pour un géographe. Au moment de la mort, et juste après, c'est la stupeur. La réalité de l'au-delà est semblable au monde des rêves. Les nouveaux morts traversent par moments des états dans lesquels il est difficile de s'accrocher à la moindre chose solide. Identité, lieu, situation, tout a l'air de se dissoudre continuellement et les pensées s'évaporent les unes après les autres sans plus laisser aucune trace, comme dans un rêve. Mais à d'autres instants, et même très rapidement après leur décès, ils semblent aussi en mesure de se faire connaître en étant conscients de leur nouvel état, calme, lucide, heureux, à l'image d'un rêve où l'on passe parfois par des états émotionnels très divers en une fraction de seconde. Chapitre 15. Aller jusqu'au seuil. Vous avez un copain ? Tout sourire, Olivia se redresse et regarde Sabrina, dont elle est en train de nettoyer la chambre. Assise sur son lit, Sabrina la dévisage en souriant, une touche d'espièglerie au coin des lèvres, et répète sa question. « Vous avez quelqu'un ?» C'est vrai qu'elle est jolie, Olivia. À 26 ans, cette jeune Montpelliéraine, aux cheveux longs clairs, travaille en tant qu'agent hospitalier dans le service d'oncologie pédiatrique du CHU de la ville, en attendant de passer le concours pour devenir infirmière. Sabrina est plus jeune, 20 ans. Elle est hospitalisée en phase terminale d'un cancer. Sa maman est avec elle. Tous les jours, des membres de sa famille se relaient à son chevet. Sabrina se sent d'humeur plus légère grâce aux antidouleurs, et depuis qu'Olivia est entrée dans la chambre, la discussion a rapidement glissé sur des sujets plus personnels. À l'approche de la mort, Sabrina veut entendre parler de vie, d'amour, de sujets légers. Elle, dont le quotidien depuis l'adolescence est marqué par la maladie. Olivia se remémore cette rencontre. Elle demandait à tout le monde si on était célibataire ou pas, pour faire sa curieuse. Olivia hésite à lui répondre. Voilà un moment que Sabrina multiplie les séjours dans ce service où enfants et adolescents sont traités pour des pathologies souvent très lourdes. 3 ans que la maladie s'est déclarée et envahit son corps. Tout le monde sait que Sabrina ne sortira plus de l'hôpital. Le cancer a résisté au traitement. Il s'est étendu. C'est la fin, même si personne ne sait vraiment quand la jeune fille va partir. Une question de semaines. On est entré dans le palliatif. La plupart du temps, Olivia passe dans les chambres assez rapidement, échangeant quelques mots avec la personne hospitalisée avant de se rendre à la chambre suivante. Son rythme d'intervention le lui impose, elle en souffre. C'est important pour Olivia ce contact humain, surtout dans une telle unité. Alors ce jour-là, elle prend le temps. La maman de Sabrina se mêle bientôt au bavardage des deux filles, jusqu'au sujet qui fait hésiter Olivia. Quand elle m'a demandé si j'étais accompagnée ou non, j'ai été embarrassée. Je ne voulais pas plomber l'ambiance.
Comment ça ?
Je ne pouvais pas dire que j'avais personne. Mais je ne savais pas trop comment dire que mon copain était parti d'un cancer, devant une fille en train de mourir d'un cancer.
Ah oui ?
Je me suis confiée finalement. Et en fait, ça nous a un peu rapprochés, parce qu'elle et sa mère ont vu que j'avais aussi côtoyé la maladie.
Elles m'ont demandé si j'étais resté jusqu'au bout, ce qui a été le cas. Gauthier, le compagnon d'Olivia, s'est éteint 2 ans plus tôt.
Elle voulait savoir si je croyais à quelque chose.
Après la mort ?
Oui. On a parlé très librement. Je sentais que je pouvais le faire avec elle. Alors je leur ai dit que pour moi, c'était évident que ça ne s'arrêtait pas là.
Olivia, très spontanément, leur confie avoir l'impression que son copain est constamment auprès d'elle depuis sa mort. Sans entrer dans le détail, elle évoque des signes qu'elle attribue à Gauthier, des rêves qu'elle a fait de lui. La sincérité et l'émotion de l'agent hospitalier libèrent la parole de Sabrina. 4 ans auparavant, la jeune fille a perdu sa grand-mère, à laquelle elle était extrêmement attachée. Ce départ a été si bouleversant que Sabrina relie l'apparition de son cancer au choc émotionnel causé par ce départ. Sa grand-mère qui, depuis, lui apparaît en rêve.
Elle m'a avoué faire constamment des rêves d'elle. Elle m'a dit « Je la vois, je la sens, elle est juste là. Elle me prend la main et me rassure parce qu'il ne faut pas que j'aie peur. Ma chérie, ne t'inquiète pas. Elle ne lâche pas ma main et me dit que je vais bientôt la rejoindre, qu'elle va venir me chercher. que l'on va bientôt se retrouver toutes les deux. Pour elle, ça n'était pas vraiment des rêves, mais une certitude, une intuition profonde. C'est peut-être la raison pour laquelle elle était si sereine.
Vous la trouviez sereine ? Elle savait la gravité de son état ?
Oh oui. Et malgré tout, elle était plutôt paisible. Ça étonnait même les infirmières.
Sabrina semble avoir atteint cette phase d'acceptation, même si cela n'empêche évidemment pas les moments de peur.
Les médecins ont informé la famille qu'il n'y avait plus d'espoir de guérison et les soins palliatifs parviennent désormais à réduire la douleur au maximum.
Ambivalence, grand écart des émotions.
Sabrina alterne les moments d'appréhension et ces périodes où, pourtant très consciente de la détérioration de son état, elle stupéfie les infirmières qui trouvent incroyable qu'elle soit si calme.
Les visites nocturnes de sa grand-mère défunte jouent sans conteste un rôle prépondérant dans l'apaisement de la jeune fille.
Olivia aussi est impressionnée.